VOA Afrique, les infos. À Washington, Bagassi Koura.
Bonjour à tous, il est 9h ici à Washington, 13h en temps universel et vous êtes sur VOA Afrique. Au Burundi, les proches du président Pierre Nkurunziza au CNDD au pouvoir restent aux commandes des postes clés dans le nouveau gouvernement, notamment la défense nationale. Mais 5 collaborateurs de l'ancien chef rebelle Agathon Rwasa, aujourd'hui premier vice-président de l'Assemblée nationale, figurent dans ce nouveau gouvernement. L'analyse du spécialiste de la gouvernance et du dialogue politique, Freddy Nkurukiye. Il est au micro d'Éric Manirakiza.
C'est d'abord reconnaître l'effort d'avoir un gouvernement réduit, 20 membres. On était habitué à bien plus que ça. La deuxième chose sur le caractère inclusif, je ne sais pas si la scène politique burundaise ne se réduit qu'au CNDD, CD et au FNL. Je remarque également que le FNL qui entre au gouvernement, qui occupe le quart des postes, c'est l'aile dirigée par Agathon Rwasa. Or, on sait bien qu'en réalité, Agathon Rwasa n'est plus leader dans quelconque parti que l'on voit. Une autre observation, c'est que le même Agathon Rwasa avait rejeté les résultats de ce processus électoral. Alors, le fait qu'il soit rentré peut être interprété comme un effort de discussion ou même de négociation de la part du CNDD-FDD. L'inclusivité dont on parle aurait été complète si le gouvernement eût accueilli plus que Rwasa, ça veut dire tous les autres partis qui avaient rejeté ces élections.
Le Burundi fait face à beaucoup de défis. Est-ce que vous pensez que c'est une équipe capable de relever ces défis?
Les défis sont immenses. Vous vous rappelez d'abord que la communauté internationale n'a pas, dans sa globalité, accueilli de la manière la plus chaleureuse les résultats de ce processus électoral et que le Burundi doit faire face probablement à une certaine mise à l'écart de la part de ses partenaires. Ça dit qu'il faudra avoir les épaules suffisamment larges pour défendre l'image ternie, que la qualité obtenue, s'il est obtenue, est-ce que ces hommes et ces femmes ont les moyens nécessaires pour relever ces défis? Sur cela, nous observons une difficulté, c'est que manifestement, si les partenaires ne répondent pas, le Burundi n'aura pas entièrement les moyens de surmonter tous ces défis. Je ne sais pas vraiment si le retour de l'un ou de l'autre soit la réponse entière à ce problème.
Il y a une note sortie par le ministère des Affaires étrangères. Peut-on parler d'une mise en garde ou d'un éventuel rapprochement avec les partenaires internationaux?
J'ai lu le contenu qui m'a un peu surpris. Le gouvernement du Burundi veut mettre en garde ses partenaires. Ça veut dire que lorsqu'on sort des notes pareilles, c'est qu'il y a de l'eau dans le gaz, comme on dit. On a une difficulté qui aujourd'hui transparaît à travers cette note, c'est que le dialogue entre le gouvernement du Burundi et ses partenaires n'est pas au beau fixe.
Freddy Nkurukiye, spécialiste de la gouvernance et du dialogue politique au Burundi. Il était joint à Lomé par Éric Manirakiza. La MONUSCO, la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo, va cesser en septembre de nourrir près de 7000 ex-rebelles congolais et étrangers. C'est ce que rapporte l'agence France-Presse. Aujourd'hui, la MONUSCO, une des plus grandes missions onusiennes au monde, avec quelque 20 000 hommes et dotée d'un budget annuel de 1,4 milliard de dollars, n'a pas suffisamment d'argent pour nourrir les ex-combattants, a déclaré Martin Kobler, le patron de la MONUSCO. Rapatriement du casque bleu congolais de la MINUSCA, la mission onusienne en Centrafrique, accusée de viol. C'est le ministre de la Défense de la RDC en personne qui l'a ramené mardi à Kinshasa pour le confier à la justice militaire. On écoute le ministre Émile Ngoï Moukena de retour de Bangui au micro de Top Congo FM, notre station partenaire en RDC.
Il ne s'agissait même pas d'un élément des forces armées congolaises, mais d'un policier. On me l'a désigné. Les enquêtes continuent. Mais il y a des rumeurs. Le même jour, j'en ai fait un prisonnier, moi, que ce casque bleu-là devait quitter la terre centrafricaine ce jour-là. Et ce jour-là, il est parti. Je l'ai amené. Et lorsqu'on est arrivé ici à Ndjili, le général Kayimbi s'est occupé de lui. Qu'aujourd'hui, on dise les soldats de la RDC, les FARDC, c'est juste des coups de teinte pour lutter contre la montée en puissance de notre armée. Et moi, j'ai dit, je déclare haut et fort que s'il y a un nouveau cas, je peux encore descendre moi-même sur le lieu. Mais sinon, nous avons déjà diligenté des enquêtes, même pour ce premier cas-là. Nous ne défendons pas des gens qui commettent des crimes. Sur cette question, nous sommes stricts et sévères.
Le ministre congolais de la Défense, Émile Ngoï Moukena, conflit du Sud-Soudan, c'est ce mercredi que le président Salva Kiir doit signer l'accord de paix visant à mettre fin à 20 mois de guerre civile dans son pays. L'ONU menace le chef de l'État soudanais de sanctions au cas où il ferait faux bond au dernier moment, Michel Joseph.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Voilà, je crois que on va retrouver Michel Joseph d'ici là. Donc l'ONU donc qui menace le chef de l'État soudanais Salva Kiir de signer donc l'accord de paix visant à mettre fin à 20 mois de guerre civile dans son pays au cas où il mettrait fin à faisait donc faux bond. Michel Joseph.
Dans une lettre obtenue par la VOA, l'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD, qui assure la médiation dans cette crise, affirme que l'accord sera signé ce mercredi dit à Juba, la capitale sud-soudanaise. L'ancien vice-président sud-soudanais, Riek Machar, chef de la rébellion, l'avait paraphé le 17 août à Addis Abeba, mais le président Salva Kiir s'y était refusé, estimant que les termes de l'accord ne permettaient pas de parvenir à une paix durable. Son gouvernement continue d'émettre des réserves. Pour leur part, les membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont fait savoir qu'ils sont prêts à agir immédiatement si le président Kiir ne signe pas l'accord mercredi, comme prévu.
Au Burkina Faso, les membres du dernier gouvernement de l'ex-président Blaise Compaoré, les députés de la dernière législature qui ont soutenu l'ancien régime exclu des prochaines élections par le Conseil constitutionnel sur la base du nouveau code électoral adopté par le CNT, le Parlement de transition. La réaction de l'un des récalés, Gilbert Noël Ouédraogo, il est le président de l'ADF-RDA.
En tant que légaliste, nous prenons acte de la décision du Conseil constitutionnel et nous nous inclinons devant cette décision, soucieux de la préservation de la paix, de la concorde et de la cohésion nationale dans notre pays, le Burkina Faso. Notre formation fera tout ce qui est en son ressort pour œuvrer à apaiser les esprits et que la réconciliation nationale soit une réalité dans notre pays.
Et est-ce que vous comprenez cette décision?
Disons que nous avons pris acte de la décision. Vous savez que les décisions du Conseil constitutionnel ne font pas l'objet de recours et donc cette décision s'impose à nous en tant que décision rendue par le Conseil constitutionnel et nous en prenons acte et nous en tiendrons à cela.
C'était donc Gilbert Noël Ouédraogo, président de l'ADF-RDA au Burkina Faso. Ici aux États-Unis, la Nouvelle-Orléans marquera le 29 août le 10e anniversaire de l'ouragan Katrina et des inondations catastrophiques qui ont dévasté la métropole de la Louisiane en 2005. Plus de détails avec Timothée Donangmaye.
10 ans après que leur maison eut été submergée par les flots, Renata et sa famille y poursuivent les travaux de réfection. Nous travaillons toujours sur elle, mais nous l'avons maintenant rendue habitable. L'eau jaillissant des brèches dans les digues avait complètement inondé ce quartier en août 2005. Et alors que beaucoup d'habitants ont reconstruit leurs maisons, des terrains vagues et de nombreuses structures en ruine sont encore visibles. Après Katrina, le génie militaire américain a construit de nouvelles digues, plus solides parce que plus profondément ancrées, le genre de digue qu'on aurait dû construire à l'origine, s'insurge de nombreux habitants de la ville. Parmi eux, Andy Copeland, maire adjoint de la Nouvelle-Orléans. Ce fut la plus grande défaillance de l'ingénierie dans l'histoire. Après tout, Katrina n'était pas une tempête plus puissante que celle contre lesquelles les digues initiales avaient été construites. Martez Lynch et sa famille vivent à proximité de l'une des nouvelles digues. Je me sens un peu mieux au sujet des digues. Je veux dire que le génie militaire et tous ceux qui sont venus aider ne pouvaient pas tout faire. Mère Nature suivra son cours si elle le désire. Il faut dire que l'homme, par ses infrastructures, a perturbé la nature en réduisant les zones marécageuses et les îles barrières protégeant la Nouvelle-Orléans. Kyle Graham travaille pour l'Agence louisianaise de protection et de restauration des zones côtières. L'une des choses que font les îles barrières et nos marais est qu'ils brisent les vagues en cas de tempête, de sorte que l'impact des flots sur certaines communautés est moins important qu'il ne le serait autrement. Selon Kyle Graham, les autorités étatiques et fédérales travaillent ensemble pour restaurer les barrières côtières et aider ainsi à prévenir la tragédie provoquée en Louisiane il y a 10 ans par l'ouragan Katrina.
Voilà, c'est tout donc pour ce bulletin d'information. L'info continue sur voafrique.com et sur Facebook VOA Afrique.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.